RFI vous présente Afrique Presse.
Hassan Diop.
Bienvenue à tous. Afrique Presse, l'actualité en débat sur RFI et TV5 Monde. C'est avec Ousmane Diaye, TV5 Monde, Pascal Hérault, L'Opinion et Louis Magloire Kemayou du Club de l'information africaine. Et c'est autour de deux sujets cette semaine. Hein. Les dirigeants du G5 Sahel en quête de financement se sont réunis à New York cette semaine en marge de l'Assemblée générale des Nations unies. Et puis le régime burundais de Pierre Nkurunziza, accusé de crimes contre l'humanité par un groupe d'experts mandatés par les Nations Unies. Et Bujumbura répond par le déni. On commence donc par cette réunion au sommet des dirigeants du G5 Sahel, en marge de l'Assemblée Générale Annuelle de l'ONU à New York. Un groupe de pays qui cherche désespérément des financements pour sa force antiterroriste, avec le soutien actif de la France. Ousmane Diaye, sur les cinq dirigeants du G5 Sahel réunis donc à New York, il y avait un absent, le Tchadien Idriss Déby. Il manquait à l'appel donc, alors qu'il était attendu à la tête, semble-t-il, d'une délégation pléthorique de quelques 50 personnes. Alors étaient donc présents le président malien, mauritanien, nigérien et burkinabé, avec à leur côté leur homologue français Emmanuel Macron, et guinéen et président en exercice de l'Union africaine Alpha Condé. Alors cette séquence aura surtout permis peut-être un peu plus de visibilité pour ce projet de force antiterroriste du Sahel. La question du financement a été renvoyée à Bruxelles au mois de décembre.
Encore envoyé, de toute façon, la force, cette force est une vraie arlésienne. Le G5 Sahel a été mis en place en 2014, on est en 2017, bientôt en fin 2017. L'objectif militaire, qui était l'objectif premier, la mise en place d'une force, est dans l'impasse, quoi qu'on puisse dire. Le principe même de vouloir penser une force avec un financement extérieur pose problème. Moi, je pense qu'à la base, il y a un problème de stratégie et de cohérence. Ça fait comme si une partie d'une responsabilité de la sécurité souveraine est déléguée quelque part aux grandes puissances. Puis deuxième étrangeté, pourquoi le Sénégal ne fait pas partie du G5 Sahel, parmi les pays en tout cas francophones du Sahel, l'armée la plus formée, la plus structurée, c'est l'armée sénégalaise. Et jusqu'à présent, le Sénégal est tenu à l'écart pour des raisons dont on ignore. L'Algérie, à la limite, on peut comprendre, parce que l'Algérie a une doctrine très forte de non-ingérence. L'Algérie privilégie la solution politique, entre guillemets, sans pour autant définir les termes de la solution politique. Donc, je pense que les contours sont assez flous. La stratégie est totalement dépendante de l'extérieur. Donc, on voit très mal comment on peut sortir de l'impasse.
Voilà. Alors, Pascal, il y a aussi le fait que les États-Unis ou le Royaume-Uni, qui ont bloqué toute aide onusienne à cette force déjà en juin dernier, eh bien, ces deux pays estiment en gros que, au fond, ce projet de force relève du bilatéral, c'est-à-dire c'est un projet commun, surtout entre la France et les cinq pays concernés.
C'est le mode de coopération privilégiée par les États-Unis et la Grande-Bretagne. Ils font de la coopération bilatérale en Afrique et ils n'ont pas envie de s'engager plus en avant dans le financement d'une force. Il ne faut pas oublier que Donald Trump...
Donc d'une force identifiée d'abord à la France.
Identifiée d'abord à la France et puis d'une force africaine, alors qu'ils ont déjà des partenariats avec tous les pays. Donc ils disent, nous, on fait déjà notre part du boulot. La France, elle, à Barkhane. L'idée de Macron, c'est qu'à la fin de son mandat, il puisse désengager les soldats. C'est une belle idée sur le papier, le G5 Sahel. C'est l'africanisation, la prise en compte de la sécurité par les Africains eux-mêmes. Après, il y a les problèmes de financement. Il y a aussi des problèmes de coopération. Les états-majors des différents pays ont aussi l'habitude de faire de la coopération bilatérale. Le Niger travaille avec les États-Unis et avec la France.
Absolument.
Le Tchad fait exactement la même chose. Le Cameroun fait la même chose.
Le Nigeria.
Donc, faire travailler ensemble ces pays, c'est très difficile, d'autant que les modes opératoires des armées sont différents. On l'a vu dans le cas de la force régionale qui intervient dans le lac Tchad, c'est plus de la coordination. On se prévient de ce qu'on fait. Il y a des droits de poursuite transfrontaliers qui sont accordés, mais il n'y a pas vraiment d'opération
conjointe.
Et le dernier nœud du problème, c'est le trou noir du Mali, avec une menace qui se répand maintenant de l'extrême nord sur la région centre, une armée malienne qui n'est pas encore recomposée, des problèmes en son sein entre les bérets rouges et les bérets verts qui ne sont pas encore réglés. Donc les différentes armées de la région n'ont pas vraiment envie de travailler avec le Mali.
Alors justement, l'argument, hein, l'argument militaire et stratégique, c'est que cette force de 5000 hommes va opérer aux frontières communes, hein, Mali, Burkina, Niger. Est-ce que ça suffit comme argument?
Non, mais ça, 5000, c'est dérisoire, c'est un coup d'épée dans l'eau. Rien que la frontière entre l'Algérie et le Mali, c'est un trou blanc, 5000 ne suffit pas. Hein. C'est-à-dire, par rapport aux enjeux, par rapport à l'espace géographique visé, 5000 hommes, on se dit, ils vont être où, hein, finalement, hein. Rien que le Nord Mali, c'est une pétodière impossible. Et avec 5000 hommes, aujourd'hui, les forces de la MINUSMA tournent autour de 10 000 hommes. Et ils n'arrivent pas à sécuriser le Nord Mali. Kidal c'est un no man's land, souvent contrôlé par une multitude de groupes armés. Donc je pense que même l'objectif de 5000 hommes, militairement, est très faible. Et puis aussi, faut pas perdre de vue aussi que chaque pays a sa propre stratégie antiterroriste. C'est-à-dire, avant de faire la force commune, il fallait quand même faire une stratégie de lutte antiterroriste commune. Quand vous prenez un pays comme la Mauritanie, a toujours fait solo avec sa stratégie. Un pays comme le Mali, après avoir longtemps été très ferme, le président Keïta entre-ouvre la porte en disant qu'on peut négocier. D'ailleurs, le président de l'Assemblée nationale, Ali Noum Diallo, l'ancien président de l'Assemblée nationale, a pris une initiative dans ce sens.
Absolument.
Issoufou est dans une stratégie plutôt ferme. Le Burkina, il est hors de question et commence à découvrir la question terroriste. Donc, tout ça, c'est à coordonner. Et tant qu'il n'y a pas une vision commune, une base commune, un projet commun, ça ne sert à rien de faire une force commune.
Pascal.
Oui, et ce que tu disais tout à l'heure sur la Mauritanie et le Sénégal est très juste. Et ça montre qu'il y a des problèmes de leadership et d'ego des chefs d'État derrière. Pourquoi le Sénégal n'est pas rentré dans cette force alors que Macky Sall vient de demander encore plusieurs fois? Il a même téléphoné au président Macron.
Au Mali. Ouais.
Au Mali.
Il a téléphoné au président Macron pour demander. Simplement parce que la Mauritanie ne veut pas qu'il y figure. Parce que à la base et à l'origine de la création de cette force, il y a un engagement très fort du président Abdelaziz. Donc, tant qu'on ne réglera pas ces problèmes d'ego et de leadership général et que les gens n'accepteront pas de travailler ensemble, de faire travailler leurs états-majors, leurs services de renseignement, d'avoir un minimum de confiance entre eux, ce sera très difficile.
Par contre, ce qu'il faut noter, la menace, elle est vraiment transnationale.
Absolument.
Hein, c'est les djihadistes mauritaniens, sénégalais, maliens.
Absolument. Toute la région, y compris la Côte d'Ivoire.
C'est pas des chefs maliens qui ont mis le feu au nord Mali, hein, c'est plutôt des mauritaniens, des algériens. Donc eux, ils coopèrent bien.
Voilà. Alors, juste un dernier mot, Louis. Rappelons quand même que le G5 Sahel n'a pas qu'une vocation sécuritaire. Il y a aussi, hein, à la base, elle a une vocation de coopération en matière de développement et on a l'impression aussi que, alors pourquoi instituer une nouvelle plateforme alors que la CDAO existe, qui a exactement la même vocation et qui réunit l'ensemble des pays ouest-africains?
Encore une fois, le problème se pose par rapport à la légitimité que se donne et qu'on accorde à ces organisations régionales, parce que personne n'interdit au pays de l'ECOMOC de dire nous sommes dans une organisation qui a légitimité et si vous voulez discuter avec nous, faisons-le dans ce cénacle qui est fait pour ce genre d'échange-là.
L'ECOMOC qui avait fait ses preuves au Liberia, en Sierra Leone.
En Sierra Leone, voilà, dans ces différentes guerres.
Avec quelques bavures.
Absolument. Et là, on n'est pas en face de petits rebelles qui tuent à la machette. Non, on est devant des groupes qui ont plus de 500 millions de dollars qui sont en train d'être cherchés. Parce que tous les trafics qu'ils font dans cette région-là ne rapportent pas que 500 millions d'euros ou de dollars.
Mais il faudrait peut-être préciser qu'à la décharge du G5 Sahel, il faut toujours se souvenir que quand le Nord Mali a été occupé par les troupes jadis, il y a eu une tentative de la CDAO de créer une force commune qui devait être pilotée par le général, le chef d'état-major de l'armée ivoirienne. Il y avait un plan opérationnel qui a été mis en place. Cette force n'a jamais vu le jour parce que les
divisions
n'ont pas les promesses de contribution, on ne les a jamais vues. Donc je pense qu'il y a aussi...
Cela dit, pourquoi ne pas justement renforcer la CDAO?
Ce sont les premières
créer des sous-ensembles, Pascal.
Il y a une brigade qui a montré son efficacité, c'était celle qui est intervenue à l'est de la RDC. C'était une brigade africaine.
D'origine sud-africaine surtout.
Sud-africaine, Burundi, si je me souviens bien, un troisième pays qui était peut-être la Tanzanie, avec un appui logistique onusien. Et donc elle a montré montrait toute son efficacité parce qu'il y avait des moyens, il y avait des équipements et il y avait une coopération avec des armées nationales efficaces. Le problème de la zone, c'est que...
L'armée sud-africaine est efficace. Voilà. L'armée tchadienne,
c'est qu'on n'a pas encore d'armée, parfois peut-être le Tchad, très efficace.
En tout cas, cette force du G5, cette force antiterroriste est supposée opérer dès le mois prochain, dès octobre, et puis le financement donc à attendre cette réunion à Bruxelles en décembre prochain. RFI TV 5 Monde, et l'on passe au deuxième sujet d'Afrique Presse, c'est-à-dire ce nouveau rapport d'experts mandatés par les Nations Unies, présenté cette semaine devant le Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Ça se passait à Genève. On y dénonce des violations massives des droits de l'homme, relevant de crimes contre l'humanité, conséquence de cette crise née de la décision du président Pierre Nkurunziza de briguer, vous le savez, en avril 2015, un troisième mandat présidentiel. Ousmane Ndiaye, le rapport des experts de l'ONU repose sur les témoignages d'un demi-millier de Burundais, contraints souvent d'ailleurs à l'exil, et donc ce rapport met en cause les responsables au plus haut niveau de l'État burundais. Ce n'est pas le premier rapport de ce type, et comme à chaque fois, Bujumbura réagit par une campagne à la fois de dénigrement de l'ONU, mais aussi de l'Union européenne cette fois-ci.
Le mécanisme est rodé, à chaque rapport. Ce qu'il faut retenir, c'est que dans ce cycle des rapports, il y a quelque part une forme d'impuissance, c'est-à-dire l'ONU qui dit finalement un crime contre l'humanité se prépare, ou en tout cas il y a tous les éléments palpables, intangibles, et que personne ne puisse bouger. Je pense que Nkurunziza a gagné la première manche. Il a gagné avec une méthode qui est très efficace, c'est-à-dire cette forme d'usure. Le temps joue en sa faveur. Aujourd'hui, tout le monde oublie finalement qu'il a entamé son troisième mandat, il va vers 2020 une nouvelle élection, et 2020 déjà il pose les fondements d'une candidature, parce qu'il a dit récemment que si le peuple le souhaite encore, il peut y aller. Évidemment, le peuple, c'est peut-être lui, parce que ce langage assez
étrange. Le peuple, c'est ceux qui n'ont pas encore pris le chemin de l'exil.
Donc là, la configuration est très simple, c'est-à-dire il a réussi le huis clos. C'est-à-dire pas de contre-pouvoir, absolument. La presse est en exil, l'opposition est en exil. Donc pour moi, la vraie question au-delà des rapports, c'est comment sortir du huis clos. De deux choses l'une, il y a une partie de l'opposition burundaise qui essaye de lâcher du lest et réévoquer les accords d'Arusha, en se disant finalement... Parce que n'oublions pas qu'au début, au départ, l'interprétation de Nkurunziza lui-même, c'était de dire « mon dernier mandat, c'est celui-là ». Il y a une partie de l'opposition qui est très réaliste, qui se dit, au fond, il ne reste encore que 2020. Essayons une négociation politique avec la condition qu'il ne se représente pas, qu'il part. Mais la question, c'est, est-ce qu'on peut faire confiance politiquement à Nkurunziza, vu l'histoire récente? La question est non.
Non. Alors, Pascal, ce rapport demande l'ouverture, quasi carrément, d'enquêtes ciblées contre ce que je pourrais dire, contre les caciques du régime Nkurunziza par la Cour pénale internationale. Or, Bujumbura s'est retiré donc de cette juridiction internationale, qui est contestée d'ailleurs par d'autres pays africains. Alors, quelle peut véritablement être la marge de manœuvre de la CPI dans ces conditions, en dehors, je dirais, d'un processus technique qui devra s'en doute prendre beaucoup de temps?
La CPI, il y a trois... peut se saisir, peut ouvrir une affaire à trois conditions. Que le pays soit membre et qu'il y ait une demande, ce qui était le cas jusqu'à récemment. Elle peut s'auto-saisir aussi, ou elle peut être saisie aussi par le Conseil de sécurité de l'ONU. Donc il y a une marge de manœuvre pour que la CPI ouvre une affaire. Mais Pierre Nkurunziza bénéficie actuellement d'astres très favorables. La situation a bien changé. La CPI est décriée sur le plan international. Le Conseil de sécurité est particulièrement divisé après l'affaire libyenne entre les Russes et les Chinois.
Très méfiant.
Vous savez, chaque grande puissance a son cercle d'influence.
Absolument.
Mais maintenant, les Chinois et les Russes, après la Libye, ont décidé de ne pas faire de cadeaux ni aux Français, ni aux Américains. Donc il y a cette conjoncture favorable, et sur le terrain, c'est lui qui a la main. Il a réussi à diviser l'opposition,
Il prépare un projet de révision constitutionnelle dans lequel on va...
Il va s'éterniser au mandat, oui.
Présidentiel risque de sauter. Le partage du pouvoir tel qu'il était conçu entre les Hutus et les Tutsis, il va être aussi certainement remis en cause. Moi, je ne vois pas beaucoup de moyens de pression, à part peut-être l'opposition armée.
Oui.
Ou alors des pressions internationales très fortes, à condition que les grands pays du P5 se mettent d'accord, parce que l'Union africaine est complètement décrédibilisée dans cette affaire.
Absolument.
Elle avait menacé.
Mais pas seulement l'Union africaine, d'ailleurs, l'ONU est un peu.
Et même le médiateur Benjamin Paca, il confie en privé actuellement que s'il pouvait se retirer, il le ferait aigrement.
Voilà. Alors comment en terminer avec ce huis clos, pour reprendre le terme d'Ousmane Diaye, ce huis clos dramatique au Burundi, alors que les pressions extérieures donc sont vaine, l'Union africaine impuissante, l'ONU impuissante, la menace de la CPI n'opère pas. Par ailleurs, les arbitrages qui ont été tentés, n'ont pas fonctionné.
Oui, parce que aujourd'hui, quand vous voyez tous les médiateurs qui ont été envoyés, qui ont été refusés par l'une ou par l'autre partie, il est difficile de trouver aujourd'hui une solution extérieure au problème burundais. Et quand on met en parallèle avec un pays qui a connu la même crise que le Burundi, mais qui est allé jusqu'à l'extrême du génocide, qu'est le Rwanda, on a encore beaucoup de chemin à faire. Parce que ce que l'on ne dit pas assez, c'est que malgré les accords d'Arusha, on n'est pas arrivé à refaire un état de droit au Burundi. Non. C'est-à-dire qu'on a, on est encore dans un processus de fabrication de l'état de droit au Burundi. Et donc c'est sur cet échafaudage branque-ballant que l'on essaie de trouver des accords sur la manière de gérer le pays. Et donc je pense que le problème de fond et la solution en elle-même ne viendra pas de l'extérieur. On a, à partir de la fin de la présidence en exercice de Alpha Omar Konaré, la présidence en exercice qui sera assumée par le Rwanda. Est-ce que cela facilitera ou compliquera la tâche? Je n'en ai aucune idée.
Mais c'est
non, la présidence voulait dire de Alpha Condé.
De Alpha Condé, qu'est-ce que vous
voulez dire? Alpha Omar Konaré.
Alpha Condé de Guinée.
Fait, absolument. Konaré. Oui. Pascal.
Oui, un petit mot par rapport au Rwanda. C'est du côté de Burumbura, on regarde à la fois Kigali avec une certaine haine, et aussi parce que Kigali a armé la rébellion pendant un temps, mais aussi il y a un peu de mimétisme aussi. Ce qui se passe au Burundi, c'est un bel exemple de contre-révolution anti-démocratique. C'est ce qui s'est passé, à Kigali avec la révision constitutionnelle.
Oui.
Et Kagame est beaucoup plus ce dossier qu'il l'était au début de la crise.
Alors est-ce que l'environnement est le même? Non.
Non, l'environnement n'est pas le même. Je pense que le Rwanda, au contraire, après le génocide, au contraire de Burundi, l'État s'est reconstruit. On peut en contester les termes, on peut dire que c'est autoritaire. En tout cas, l'administration publique fonctionne. Il y a une ossature d'un État. Je ne dis pas une nation, un État.
Et puis une paix.
Une paix, ça. Il y a un système, les institutions sont plus solides. Au Burundi, l'accord d'Arusha, l'application a toujours traîné. Il y a toujours eu une sorte.
Avant même les accords d'Arusha,
les accords, et les accords n'ont jamais été appliqués. Donc les bases ne sont pas les mêmes. Et puis je pense que malheureusement, le contexte sous-régional, malheureusement, tant à consolider Kurundiza, parce que le grand voisin, on parle du Rwanda, mais le grand voisin, c'est le Congo. Qu'est-ce qui se passe au Congo? Joseph Kabila est en train de, dans une crise étrangement similaire, d'opter pour la solution Kurundiza.
Absolument.
Au-delà de ça même, on a une vraie crise de leadership. Nous en parlions sur l'Afrique de l'Ouest, mais il y a une vraie crise de leadership en Afrique de l'Est également. Vous aviez à un certain moment un Daniel Arap Moi qui pouvait frapper du poing sur la table et résoudre une crise.
Kagame tente de le prendre.
Kagame essaie de le faire.
Il a un pays qui, géographiquement, c'est un nain.
Et vis-à-vis du Burundi, il y a quand même un handicap.
Il sera accusé de
d'ingérence
comme il l'a été en RDC. C'est là toute sa difficulté.
Parce que non seulement il accueille quelques réfugiés, et déjà ça pose problème parce qu'on estime que ce sont des militaires qui vont là pour trouver une base d'entraînement au Rwanda. De l'autre côté, il est en train de conduire une réforme de l'Union africaine qui devrait normalement déboucher sur des résolutions de conflits de ce type-là, à basse intensité. Derrière cela aussi, il y a le fait que les voisins aujourd'hui n'ont plus besoin d'avoir des interventions extérieures, qu'il s'agisse de la Tanzanie, qu'il s'agisse de l'Ouganda, dont le président est aujourd'hui plus absent que jamais. Tout cela ne contribue pas à donner l'impression à Nkurunziza qu'il peut être menacé ou que ce soit.
Alors que ce sont eux qui ont la clé. C'est quand même un pays.
C'est la sous-région. Enclavé, oui.
C'est des voisins. Oui. S'ils veulent faire quelque chose, oui, ils peuvent facilement isoler, comme dans le cas gambien ou comme dans le.
Mais apparemment, ils ne sont pas déterminés à le faire. C'est la fin de cette émission. Merci Ousmane Diaye, Pascal Hérault, Louis Magloire Kemayou, ainsi qu'aux équipes techniques et rédactionnelles d'Afrique Presse. Cette édition est à retrouver sur les sites internet de RFI et de TV5 Monde. Grand merci de votre fidélité et à la semaine prochaine.